créer, charbonner,
job,
bûcher, gagner, peindre,
chagrin,
cabinet,
tôle,
urbain,
gagner,
AVS,
créer,
charbonner,
tôle,
travailleur du sexe,
pénis,
preneuse de son,
exécuter,
ouvrier agricole.
Plancher,
quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager sur les faits et méfaits du turbin. C'est cette expérience que nous souhaitons explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe de l'émission est simple. Un même questionnaire pour différentes expériences au travail. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes, qui donne à ces entretiens un aspect à la fois universel et singulier. Une même trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse.
Bonjour, c'est Canal Sud, c'est la chronique travail, on est mardi et il est midi. Aujourd'hui avec nous Marine, bonjour.
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 C'est quoi ton taf Marine ?
Alors moi je suis infirmière préleveuse, c'est-à-dire je fais des prises de sang et des prélèvements bactériologiques.
D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça ?
Ça fait 10 mois à peu près.
Est-ce que tu as été formée pour ce travail ?
J'ai été formée pour être infirmière. C'est une formation de 3 ans. Et après, pour faire ce travail-là spécifiquement, j'ai été doublée, c'est-à-dire j'ai été encadrée pendant 2 semaines quand j'ai pris le poste.
C'est-à-dire que pendant 2 semaines, c'est pas toi qui faisais les gestes, mais tu observais, comment ça se passe ?
C'est-à-dire que pendant 2 semaines, tu fonctionnes en binôme avec quelqu'un qui fait le même travail que ce que tu vas faire. Au début, tu la suis, tu la regardes, et puis petit à petit, tu prends la place, et elle t'encadre, te donne des conseils, rectifie quand tu fais des erreurs et s'assure globalement que tu fais le travail correctement.
Ok. C'est qui ton employeur ?
Mon employeur, c'est un laboratoire privé qui fait partie d'une grosse chaîne de laboratoires qui est nationale, qui sous-traite les prélèvements à des cliniques privées. Du coup, en tout, je pense dans la ville à 10 de cliniques privées.
D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sous-traiter les prélèvements à un laboratoire pour une clinique ?
Ça veut dire qu'il y a 2 façons de travailler pour ce laboratoire. D'abord, ils possèdent des laboratoires qui ressemblent à des laboratoires de ville, mais qui sont placés dans des établissements de soins. Du coup, les patients arrivent avec des ordonnances faites par leur médecin pour se faire faire leur prise de sang, comme ils iraient dans n'importe quel laboratoire de ville. Et une deuxième partie du travail, qui est du coup le côté sous-traitant de ce laboratoire, c'est que le personnel, les préleveuses sont polyvalentes pour travailler dans le laboratoire de ville et pour travailler dans les différents services des cliniques, du coup en service d'hospitalisation.
Donc si toi tu fais les prélèvements aux cliniques, les infirmières de la clinique ne les font pas ?
C'est à peu près ça. L'idée, effectivement, je crois, que c'est de soulager, entre guillemets, les services, le personnel paramédical des différents services dans les cliniques, du geste technique, de la prise de sang et de l'analyse. Ça fait que, globalement, sur mes horaires de travail, dans la plupart des services de l'hôpital, les infirmières ne sont pas censées faire les prises de sang. Quand elles en ont une à faire, elles m'appellent et c'est moi qui viens les faire. Ça marche pour les services d'hospitalisation classiques, ça marche pas pour les services d'urgence, les soins intensifs, ça marche pas pour le bloc opératoire, ni le bloc maternité. Là, c'est les services qui font directement les prélèvements. Pareil, on n'a pas de service de nuit, et du coup, à partir de 19 ou 20 heures suivant les jours, c'est les infirmières de nuit qui font les prélèvements elles-mêmes.
Ok. D'accord. C'est quoi ton volume horaire de travail par semaine ?
Officiellement, je fais 35 heures semaine. La réalité ressemble plus à 40-45 heures semaine.
Pourquoi ?
Parce que nos horaires sont... je fonctionne sur un temps plein. Mon temps plein est annualisé. C'est-à-dire que de mai à mai, l'ensemble, le total de mes heures doit correspondre à un temps plein hebdomadaire, donc à un 35 heures semaine. Ça donne une grande latitude à mes employeurs pour m'embaucher, par exemple, 45 heures semaine pendant 10 semaines et éventuellement, s'ils en avaient envie, m'embaucher derrière, 20 heures semaine, j'imagine, pour compenser. Ça permet à eux, ça leur permet de s'adapter aux besoins des différents services. Voilà, ça veut dire aussi que s'ils décident, ils peuvent soit m'employer à 40-45 heures semaine toute l'année et me payer les heures sup en mai, soit me les rendre comme des jours de congé.
Et toi, tu as le choix ou... Est-ce que c'est toi qui décides de ton volume horaire hebdomadaire ?
Non.
Ça veut dire, on dit, cette semaine, tu bosses 52 heures, tu bosses 52 heures.
Alors, je crois que la limite légale, c'est 45 heures. Il me semble que je n'ai pas le droit de dépasser 45 heures semaine. Mais globalement, oui. Si on me donne un planning, je fais mon planning. Après, la personne qui gère les plannings, qui est coordinateur, c'est un collègue. C'est un collègue qui faisait du prélèvement jusqu'à... il fait fonction, en gros, de coordinateur. Du coup, lui, il faisait seulement du prélèvement jusqu'à prendre ce remplacement. Donc, c'est un collègue qui connaît la réalité du travail. Et si on a des besoins, des impératifs, c'est très, très possible de parler avec lui. Par exemple, si j'ai un rendez-vous médical un après-midi, je le lui dis et il ne me pose pas, il me met pas en poste cet après-midi-là. C'est relativement négociable. Là, à mon travail, on commence à être sérieusement en sous-effectif. Du coup, plus on est en sous-effectif et moins ça devient négociable parce que de toute façon, il faut des gens pour remplir les postes.
Quelle visibilité tu as sur ces plannings ? C'est hebdomadaire ? C'est à la semaine ? En début de semaine, tu sais combien tu vas travailler d'heures ou c'est un planning plus long ?
Alors, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, on m'a dit « t'as une visibilité à 5 semaines, quoi qu'il arrive ». En vrai, ce qui se passe, c'est que quand mon collègue fait les plannings, il fait les plannings pour 5 semaines, globalement, sauf en temps de crise. Ça veut dire que la semaine, avant d'avoir tes plannings pour 5 semaines, tu as une visibilité à 4 jours et qu'après, tu as ton planning pour les 5 semaines à venir. Et du coup, tu sais ce que tu fais pendant 5 semaines, à peu près. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie quand même de faire tampon, d'amortir. Et du coup, régulièrement, il nous laisse quand même un aperçu des plannings qui peuvent venir. Bon, la réalité, c'est que les temps de crise, ils arrivent quand même souvent en ce moment à cause du sous-effectif. Et que du coup, on n'a pas une visibilité énorme sur les plannings.
Et ce sous-effectif, c'est lié à quoi ?
C'est assez directement lié aux conditions de travail. Alors, je pense que globalement, c'est lié déjà à la profession infirmière en ce moment. C'est-à-dire depuis 2 ans, avec les histoires de Covid, il y a énormément de gens qui sont en burn-out, qui ne veulent plus travailler dans le soin, du coup, qui se réorientent, qui se mettent au chômage et ou en arrêt. Ça fait, je pense, déjà un déficit en termes de possibilités d'emploi. De façon générale, j'ai l'impression que tous les services de soins en ce moment sont déficitaires. La plupart, en tout cas, en termes d'infirmières. Et par-dessus ça, on peut rajouter les conditions de travail dans le laboratoire qui sont pas très attractives et pas vraiment compensées par un salaire ou des avantages professionnels qui permettent, qui donnent envie de...
Ouais. Parce que tu nous as dit ton volume horaire, donc 35 heures sur le papier. En tout cas, c'est pour ça que tu es payée. Pour un salaire de combien par mois ?
Pour un salaire de... Moi, je suis arrivée à 13 euros de l'heure. Ça fait à peu près... 13 euros brut de l'heure. Ça fait à peu près un net de un peu plus de 1 500 par mois. Le salaire, il est... En plus de ça, il est augmenté par des primes et le travail qu'on va faire les jours fériés et les week-ends. Travailler un dimanche ou un jour férié, par exemple, ça remonte le salaire de un peu plus de 100 euros. C'est des heures qui sont payées à 50% de plus. Pareil, les heures du matin, un peu considérées comme des heures de nuit, c'est-à-dire tout ce qui va être avant 8 heures du matin, ça va être payé à 10% de plus. On a par ailleurs une prime. En fait, on travaille dans des grosses cliniques sur Toulouse, mais on a aussi une partie de nos postes dans des cliniques annexes. Je pense qu'il faut que j'explique ça un peu. Quand je travaille dans une grosse clinique, je suis présente du matin au soir. C'est-à-dire, j'arrive le matin, je fais les prélèvements qu'on me demande de faire, que les médecins ont prescrit la veille le matin, et au fur et à mesure dans la journée, si un médecin prescrit un autre prélèvement, le service m'appelle et je viens faire la prise de sang du matin au soir. Il y a d'autres sites périphériques dans lesquels on va aller faire les prises de sang que les médecins ont prescrit la veille seulement. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller dans un centre de rééducation. Les médecins auront prescrit une quarantaine de bilans suivants. Et je vais faire ces bilans-là dans les premières heures de la matinée. Donc, généralement, entre 6h, 6h30, 7h et le temps de les finir, ça peut courir jusqu'à 11h. Et je ne sais plus pourquoi je l'ai fait.
Et visuellement, quand tu es sur ces sites annexes, tu repars avec une valise avec tous tes petits tubes à essai plein de sang jusqu'à un labo.
Tout à fait. Je repars avec ma mallette, qui est un sac isotherme, et je reviens jusqu'au laboratoire où là, ils sont soit techniqués sur place, soit acheminés jusqu'au plateau technique.
D'accord. Et tu as combien de lieux de travail ?
Je travaille sur deux grands sites, plus un site périphérique. Et là, c'est en négociation de travailler sur un site périphérique supplémentaire.
D'accord. Qu'est-ce que ça implique pour toi, ces déplacements ? C'est à ta charge ? C'est dans ton temps de travail ?
C'est dans mon temps de travail si je récupère la voiture de fonction. C'est-à-dire que, par exemple, le site périphérique dans lequel je travaille, il est situé à l'autre bout de la ville, il est en dehors de la ville même par rapport à là où j'habite. Donc, je prends ma voiture ou mon vélo pour aller sur une des grosses cliniques où je récupère la voiture de fonction. À partir de là, je pointe, c'est compté comme mon temps de travail. Je fais une demi-heure de voiture pour aller jusqu'au site périphérique. Et après, je reviens dans la grande clinique une fois que j'ai terminé. Je finis ma journée dans la grande clinique et je dépointe en partant. Donc, l'ensemble de ce temps-là est considéré comme du temps de travail, hors pause déjeuner.
Ok. Donc, les heures de nuit, on a vu qu'avant 8h du matin, c'était compté. Les heures sup, en général, te sont payées ou...
Eh bien, justement, les heures sup, ça dépend de la décision qui est prise en mai à la fin de l'annualisation. Soit on me rend des jours de congé, soit on me paye les heures sup. Mais effectivement, c'est un travail où on pointe. Et du coup, quoi qu'il arrive, ces heures sup, elles sont prises en compte.
Est-ce que tu as le choix entre rémunération et récupération ?
C'est une bonne question.
T'as pas encore été jusqu'en mai.
Non, j'ai pas. J'ai pas été jusqu'en mai. Je pense que j'ai une partie du choix et une partie non. En fait, ça va dépendre aussi des besoins de présence sur les postes. Je pense que si par exemple en avril-mai on arrive sur une période de gros sous-effectifs, on va pas me donner 2 mois de congé. Pour rattraper, 2 mois j'exagère. On va pas me donner 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines de congé pour rattraper mes heures sup et éventuellement on va me les payer. L'année dernière, c'est ce qui arriva. Mes collègues, elles ont eu, sur leur mois de mai, elles ont presque doublé leur salaire. Ça, parce que du coup, on leur a payé toutes les heures sup qu'elles avaient fait l'année précédente.
T'as pas mal de congés ? Comment ça se passe sur une année ?
Je crois. Officiellement, je cumule 2 jours et demi de congés par mois. Il y a un système, c'est un peu flou pour moi les histoires de congés. Donc théoriquement, je cumule 2 jours et demi de congés par mois. Il y a un système où quand je travaille de week-end, normalement j'ai 1 jour de repos avant, 2 jours de repos après, disséminé à un moment dans la semaine. Mais du coup, ça ferait 3 jours de congés par rapport à une semaine où je travaille pas le week-end, où j'en ai que 2 de congés. Maintenant, comme la question c'est pas le nombre de jours où je travaille, mais le nombre d'heures où je travaille, c'est très aléatoire. Finalement, en fait, si je fais des semaines où je travaille 3-4 fois sur... 4 fois, ça n'arrive pas beaucoup, mais 3 ou 4 fois sur une amplitude horaire de 12 heures, donc compter 10, théoriquement, je vais avoir plus de jours de repos, mais qui ne vont pas être appelés des jours de congé. Les jours de congé, à proprement parler, je pensais 2 jours et demi par mois. Quoi.
Ok. Et c'est quoi ton contrat ?
Mon contrat, c'est un CDD qui s'étale sur 1 an. Voilà, qui est renouvelable. Moi, je fais un remplacement sur un congé maternité.
D'accord.
Voilà. C'est le fait que ça soit un CDD, c'est un choix. C'est moi qui l'ai demandé. Ils étaient plus à chercher à embaucher en CDI. Je pense que, vu le nombre de départs, ils sont plus dans une idée de fidélisation de leurs employés. Et moi, en vrai, j'avais jamais travaillé en laboratoire. Du coup, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, de me laisser la possibilité de renouveler ou pas derrière.
Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ?
Je peux raconter une journée type. Moi, je travaille sur, je pense, une dizaine de postes différents au sein des cliniques principales, des cliniques périphériques et des structures de laboratoire qui correspondent aux laboratoires de ville. Je pense que les journées que je fais le plus régulièrement, c'est celles que je passe dans les étages en clinique, c'est-à-dire vraiment dans les services d'hospitalisation. Une journée type, du coup, sur un service d'hospitalisation, ça serait d'arriver à 7h30 le matin. Quand je prends mon poste, en général, j'ai déjà des collègues qui sont là, qui ont ouvert les services de consultation, par exemple.
Ça veut dire quoi, ouvrir un service de consultation?
C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, il y a la consultation, c'est-à-dire... Pardon, c'est pas clair. La consultation, c'est le laboratoire de ville. Donc, j'arrive au rez-de-chaussée de l'hôpital où je travaille. Il y a le laboratoire de ville de mon labo qui est déjà ouvert en bas. Il y a des collègues qui y travaillent depuis 7h du matin. Moi, je pose mes affaires, je pointe, je prends le téléphone, je prends ma mallette et je monte dans les étages. Je commence par monter les étages en regardant un par un. Donc, je vais au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, en regardant au fur et à mesure s'il y a des bilans à faire à jeun. C'est-à-dire où les patients ne doivent pas manger ou boire avant que je fasse les bilans. Je fais ces bilans-là prioritairement et seulement ces bilans-là. Et quand j'arrive au cinquième, je reprends et je fais tous les bilans de tous les étages en redescendant. C'est-à-dire les services de chirurgie, les services de médecine, les services de maternité pour les adultes, du coup. Une fois que j'ai terminé ça, je fais les prises de sang des nouveau-nés des services de maternité. Une fois que j'ai terminé ça, suivant les hôpitaux, c'est pas le même cadre partout. Il y a des hôpitaux où on fait les prélèvements, les PCR Covid, et du coup, on fait les PCR Covid après avoir prélevé les nouveau-nés. Ensuite, on arrive à peu près à un moment où normalement, c'est l'heure de ma pause. Et du coup, suivant mes horaires, j'ai 1 à 2 heures de pause. Et puis, je réenchaîne l'après-midi où, dès qu'on m'appelle, je vais faire une prise de sang. Ou alors, à partir de 15-16 heures, il y a les entrées qui arrivent dans les services. Et du coup, je vais prélever les gens pour préparer leur chirurgie du lendemain, par exemple, ou pour faire un bilan initial sur une hospitalisation. Et ça, ça dure jusqu'à 19h30. C'est une journée sur une amplitude horaire de 12 heures. Travailler 10 heures parce qu'on a 2 heures de pause le midi. Ça, c'est le schéma classique avec au milieu...
Juste pour préciser, là, tu décris un truc où tu fais pas mal... Enfin, tu fais des prises de sang le matin. Combien à peu près de prises de sang?
C'est hyper dur à dire.
20, 50, 200, tu sais pas dire.
Sur l'ensemble de la journée, plusieurs dizaines. Après, on fait beaucoup moins. Par exemple, dans la partie laboratoire de ville, sur une matinée, on peut facilement faire 60 prises de sang. En hospitalisation, on en fait beaucoup moins, mais comme on va de chambre en chambre, la prise de sang prend beaucoup plus de temps que la prise de sang en laboratoire de ville. Moi, globalement, je considère qu'il me faut 5 à 10 minutes pour une prise de sang en chambre, quand il m'en faut 3 pour une prise de sang en laboratoire de ville sur un bilan simple. À peu près. À garder en tête sur l'ensemble d'une journée normale, comment ça se passe, on a des passages de coursiers à des horaires fixes. Moi, mon travail, c'est non seulement de faire les prises de sang, mais en fait aussi de récupérer les prélèvements des services. Par exemple, soit ils ont eu une prise de sang urgente à faire, soit un prélèvement bactériologique que je ne fais pas moi, c'est-à-dire un prélèvement vaginal, un prélèvement d'urine, un prélèvement de sel, ou les prélèvements au bloc opératoire que moi, je passe récupérer. Du coup, régulièrement dans la journée, je passe au bloc opératoire, au bloc maternité, en néonatologie, aux soins intensifs si on m'appelle. Je récupère ces prélèvements. Je juge du degré d'urgence de prélèvement. Si ce n'est pas une urgence absolue, ça part avec le prochain coursier. Si c'est une urgence absolue, éventuellement, je prends mes petits pieds et je marque jusqu'au plateau technique qui est quelques rues plus loin.
Justement, quand tu dis ce « je juge si c'est urgent et autre », je voulais savoir qui décide, qui recoupe toutes ces informations de où tu dois aller? Est-ce que les médecins de chaque plateau t'appellent en direct ou est-ce qu'ils passent par le labo de ton employeur qui te donne une liste?
Alors, les médecins décident des prises de sang ou des prélèvements à faire. Ils le prescrivent à leur équipe paramédicale qui va m'appeler quand elle a besoin ou quand elle juge que le moment est opportun ou directement quand elle a la prescription. Ça dépend de leur priorité. Moi, du coup, une fois que j'ai l'appel, je monte dans les étages, pareil en jugeant du degré d'urgence. S'il y a un prélèvement vraiment urgent, ça peut arriver que le médecin appelle directement le biologiste de mon labo, qui est le biologiste de garde, qui est donc mon patron, qui va être prévenu de l'urgence du bilan et qui va m'appeler directement. Parfois, c'est des sortes de procédures qui se croisent. C'est-à-dire, moi, je vais être appelée par l'infirmière du service, le biologiste de garde va être appelé par le médecin du service, et on finit par comprendre qu'on a été appelé pour le même bilan.
D'accord. Donc, tu as cette capacité de t'organiser quand même, de t'auto-organiser quand même en fonction des demandes, au final, en tout cas, c'est toi qui gères ta liste de prélèvements que tu as à faire dans la journée, dans la matinée.
Oui, et c'est une grosse, grosse, grosse part du travail, la gestion des imprévus et des urgences, parce que finalement, quand on arrive le matin, on a une liste de bilan qui est prévue, soit qui était déjà prévue la veille et que du coup la collègue a préparé, soit qui a été décidée pendant la nuit, du coup c'est à nous de préparer, mais ça en tout cas c'est la partie simple du travail. On a une liste, on prélève, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. La difficulté, c'est les bilans qui se rajoutent par-dessus et les urgences à gérer. Avec aussi, on peut rajouter qu'on a quand même beaucoup de travail, on en parlera plus tard, mais qu'on réalise en binôme ou conjointement avec les collègues qui sont présents sur le même lieu de travail à ce moment-là. Et par exemple, quand moi je suis dans les étages, mais qu'il y a un enfant à prélever à la consulte, donc au laboratoire de ville, je descends pour aider ma collègue à prélever. On prélève toujours les enfants à deux, par exemple. Et du coup, je laisse mon travail dans les étages pour descendre prélever l'enfant qui est au laboratoire de ville. Ou par exemple, sur des prélèvements difficiles, en général, on ne s'acharne pas, on appelle les collègues pour qu'ils viennent essayer.
J'ai une dernière petite question. Tu parles de téléphone, c'est ton téléphone perso qui est utilisé pour ça ?
C'est pas du tout. Non, c'est un téléphone de travail. Et du coup, suivant les endroits, c'est plutôt un Tokiwoki. C'est un peu exagéré de dire ça, mais...
D'accord.
Mais c'est un objet qui sonne très souvent.
Suivant les heures, c'est un objet qui peut sonner toutes les 2 minutes et demie.
Okay. Oui. C'est une petite idée de par quoi ta journée est rythmée.
Oui, donc ça veut dire que c'est un objet qui peut sonner sur les journées un petit peu speed, ça veut dire que ça sonne pendant que je suis en train de faire un prélèvement sanguin également. Souvent.
Ok. On va faire une petite pause, écouter une chanson et puis on se retrouve.
No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo. Yo tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar, quiero 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 quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado, tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, yo tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar.
Para quemarte, para quemarte, tuve que quemar.
Et donc c'était Sarah Ebe, Tuve Kekemar, et c'est Marine qui a choisi la chanson.
On va passer à une seconde partie de ce questionnaire qui parle plutôt d'organisation du travail. Est-ce que combien tu as de collègues, par exemple, qui seraient qui sont embauchés par ce même employeur que toi?
Alors directement, on devrait être une quatorzaine de préleveuses. Dans la réalité, ces temps-ci, on est plutôt proche du mi-effectif. Voilà, ça c'est pour les personnes qui font le même travail que moi exactement, mais j'ai d'autres collègues avec qui je travaille au quotidien, à savoir les secrétaires, les techniciennes qui vont techniquer les prélèvements. Du coup, ça augmente le nombre de personnes avec qui je suis en contact quand même.
D'accord. En termes, tu as dit préleveuse, donc qui fait ce travail en général, on sait que c'est un métier très féminin.
Eh bien, tout à fait, à très très grande majorité. Mmh. Et c'est en partie, là c'est, du coup c'est majoritairement des femmes et majoritairement des personnes jeunes. Jeunes, ça va être entre, allez, 25 et 35 ans, avec vraiment une tendance plutôt entre 25 et 30.
D'accord. Est-ce que, quels sont tes rapports avec, d'une part, les préleveuses, et est-ce que c'est le même rapport que tu as avec les techniciennes et administratives du labo ?
Alors, non, ça ne va pas être exactement les mêmes rapports. Avec les autres préleveuses, on a quand même vraiment un travail d'équipe. Parce que sur la journée type que je décrivais tout à l'heure, en fait, à plein de moments, on va être deux pour remplir la même fonction ou pour remplir des fonctions qu'il faut qu'on coordonne. Du coup, sur les moments où on est deux ou trois dans le même établissement, on va travailler réellement ensemble, soit parce qu'on est géographiquement ensemble et qu'on se partage les tâches sur le moment, soit parce qu'on est en contact téléphonique très régulier pour se dire qu'est-ce qu'il y a à faire, où va l'une, où va l'autre et comment on se coordonne. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui marche quand même très bien sur le travail d'équipe et étant donné le faible effectif qu'on a en ce moment, je pense que c'est le truc qui fait qu'on reste fonctionnel.
Que ça tient. Ouais. Du coup, tu observes et, une solidarité et, entre vous ?
Oui. Oui, parce qu'en vrai, notre travail à chacune, il dépend énormément de la façon de travailler des collègues avec qui on va fonctionner le jour même, mais aussi des collègues qui auront été là la veille. Et nous, notre travail du jour va impacter les collègues du lendemain. Parce qu'une partie du travail de la journée, c'est de récupérer les bilans qui sont déjà prévus pour le lendemain, de les préparer, c'est-à-dire de les enregistrer informatiquement et d'aller reposer les étiquettes dans les services et de préparer le matériel pour faire les prélèvements.
D'accord. Et indépendamment de ces contacts fonctionnels, j'ai envie de dire, et organisationnels, est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à vous retrouver pour peut-être repenser vos fonctions avec plus de recul, sans être dans le stress, sans parler de fonctionnel?
C'est pas évident de répondre à cette question parce qu'il y a des postes sur lesquels on va être deux et on va fonctionner en binôme. Et techniquement, à part le temps où on va être dans la chambre des patients avec des patients, on va passer notre journée à parler. Ces discussions-là, elles sont pas négligées, moi je trouve, sur l'analyse de nos conditions de travail. Parce que c'est, on parle pas que technique, on parle pas que de nos vies privées, on parle aussi clairement de ce qui est en train de se passer dans nos jobs, notre façon de faire. Du coup, c'est des vrais temps de discussion. À la fois, c'est des temps de discussion qu'on a généralement à deux et pas en équipe. Et c'est des temps de discussion qui sont très impactés par la charge de travail et par les aléas de nos journées. Du coup, à la fois, c'est des moments qui sont importants et qui ne sont pas à négliger. Et à la fois, ce n'est pas non plus des gros moments de qualité en termes de, d'analyse et de solutionnement, on va dire, de problèmes. Et du coup, pardon, pour répondre directement à ta question, il y a des moments où on peut avoir des temps posés pendant nos... techniquement pendant nos pauses. Après, nos pauses sont calculées pour qu'elles ne se croisent pas exactement parce que justement, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un en poste au cas où pour aller récupérer des prélèvements ou pour aller en faire.
D'accord. Par exemple, ce moment où un coordinateur donne les plannings, est-ce que ça se fait par exemple sur une réunion de groupe ? Il y a une coordination un peu de groupe à ce moment-là ?
Non.
Jamais.
Non, après sur les moments un peu charnières, un peu clés, un peu tendus de l'année, par exemple les vacances d'été, par exemple les vacances d'hiver, généralement la personne qui fait les plannings va demander à tout le monde ses disponibilités, ses envies, essayer de prendre en compte ça au maximum. Ça c'est aussi un moment où du coup si on sait qu'il y a des collègues qui ont des impératifs, on peut en parler entre nous, essayer de négocier des trucs ou d'arranger des trucs pour que les unes les autres on ait les congés qu'on veut. Pareil si... Si le planning est déjà fait, mais que moi, ça m'embrouille qu'on me fasse travailler jusqu'à telle heure ce soir-là, je peux essayer d'échanger avec une collègue. Ça, c'est un truc qui est possible.
D'accord.
Mais vous n'avez pas de réunion, quoi?
Mais on n'a pas de réunion sur les congés, non.
Et sur rien d'autre?
On a eu une réunion de service, par exemple, il y a une paire de mois. Honnêtement, j'ai pas compris si c'était normal d'avoir une réunion de service ou si c'était une réunion de service extraordinaire parce qu'on était en temps de crise. Je sais pas. Ça a existé, en tout cas.
Une fois, c'est ça.
Depuis que je suis arrivée, une fois, oui.
Ce qui sous-entend que tes rapports avec tes supérieurs hiérarchiques sont exclusivement interindividuels, ou presque.
Oui. Oui.
D'accord. Ouais. Comment ça s'organise, ces rapports avec tes supérieurs hiérarchiques?
Alors, moi, mes supérieurs, ils sont... Comme supérieur, il y a notre DRH. Avec lui, je suis en contact au moment où je passe mon entretien d'embauche et où je signe mon contrat. Et si j'ai besoin de le solliciter ou qu'il a besoin de me solliciter. C'est à peu près tout. Lui, je ne le croise pas dans mes temps de travail. Et après, mes supérieurs, c'est les biologistes, c'est les gens qui possèdent le laboratoire. Eux, je les croise certains assez régulièrement parce que dans les endroits de prélèvement de laboratoires de ville, donc ils sont au rez-de-chaussée des cliniques, ils sont présents une partie de la journée ou toute la journée. Du coup, il y a un moment de la journée où ils deviennent des collègues dans le sens des gens avec qui il faut s'organiser pour faire le taf. Voilà. Il n'empêche que la question de la hiérarchie existe quand même à ce moment-là. Et après, par ailleurs, moi, dans mon travail, à chaque fois que j'ai un doute sur un prélèvement à réaliser ou des conditions, un doute sur n'importe quoi d'ailleurs, qui touche à la qualité de mon travail, il y a une ligne directe pour appeler le biologiste de garde et je le contacte. Ça fait que quand même, la plupart du temps, mes rapports avec mes supérieurs hiérarchiques sont des rapports techniques.
D'accord.
Pour des questions de qualité, pour des questions de faisabilité que je les contacte.
Ok. Et comment estimes-tu ces relations? Est-ce que tu les trouves horizontales? Est-ce que dans, justement, cette problématique technique, est-ce que vous avez un rapport, est-ce qu'il y a une vraie supériorité? Est-ce que...
Il y a une hiérarchie qui est très nette. Je tutoie mes collègues, je vous vois mes supérieurs. Ouais. C'est réciproque. Il y a une exception à ça. Mais la façon de faire de base, c'est ça. Je pense qu'on a une distance. Autant on est potes avec la plupart de mes collègues, il y a une distance qui est très très nette avec nos supérieurs.
D'accord. Est-ce que tu es évaluée?
Je suis pas encore évaluée parce que ça fait moins d'un an que je suis là. Il y a une évaluation officielle qui existe. C'est les entretiens. Ça se fait au moment des entretiens annuels. C'est un moment où on a un des biologistes qui est présent, la personne qui est évaluée et notre collègue qui gère les plannings, qui fait de la coordo, en gros, qui a une place plus ou moins de cadre, on va dire. C'est un moment, officiellement, j'ai l'impression, de ce qu'on m'a raconté, moi j'ai pas eu, c'est un moment d'échange. On dit où on en est, qu'est-ce qu'on en pense, comment on se sent, comment on envisage la suite. C'est un moment, j'imagine aussi, où du coup les biologistes disent ce qu'ils ont compris de comment on fonctionne et ce qu'ils pensent de notre travail, en termes de qualité, d'efficacité, relationnelle, etc. Ça sous-entend largement qu'il y a une évaluation officieuse qui existe au quotidien, puisqu'on est en contact au quotidien.
Ouais. Ouais. Et que dans ce moment-là, tu es seule face à deux employeurs à toi.
Et alors ça dépend comment on voit les choses, parce que le collègue qui fait les plannings, celui en tout cas qui fait fonction 2 en ce moment, c'est vraiment vraiment un collègue. En tout cas,
d'accord,
pour moi, c'est un collègue au même titre que mon autre quinzaine de collègues avec qui je bosse. Donc lui, plutôt pour moi, c'est clairement un allié. Si c'était pas lui, je sais pas si ça serait le cas. C'est aussi parce que c'est cette personne-là.
D'accord. Est-ce qu'il y a des sanctions?
Il y a des sanctions possibles, oui. Il y a des sanctions possibles si on fait une... Bon, moi, j'ai l'impression que la grosse faute qui peut être faite dans mon travail, c'est de se tromper d'identité de patient. Du coup, d'étiqueter mal un prélèvement au nom de quelqu'un d'autre. La grosse erreur, c'est d'étiqueter mal un prélèvement de groupe sanguin. C'est le truc sur lequel on a une identité de vigilance très forte et serrée, et que se tromper là-dessus, ça peut réellement porter à conséquences fortes. Du coup, ça, c'est susceptible de sanction. Une sanction, techniquement, ça va être un blâme, éventuellement une mise à pied, éventuellement un licenciement pour faute grave.
D'accord. Est-ce que, donc, il y a des personnes, j'imagine, en CDI dans ce laboratoire qui sont quand même vues tous les ans pour faire ce bilan. Mmh. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles de carrière pour ces personnes qui seraient en CDI dans ce labo privé ?
Il y a des évolutions de salaire qui se font régulièrement en tout cas. Il y a des évolutions en termes de responsabilité. En fait, il y a plusieurs sites périphériques. Une des évolutions possibles, c'est d'être responsable d'un site périphérique. Du coup, d'avoir une sorte de droit de regard sur l'organisation et un droit de suggestion pour que ça se passe au mieux. Ça veut aussi dire, techniquement, une prise en charge de l'organisation du travail et de la gestion du pool de préleveuses, qui, à ma connaissance, n'est pas rémunérée.
D'accord.
Voilà. Ça veut dire que c'est du temps qui est pris sur son temps de travail. Que si à un moment j'ai rien à faire, bah par exemple, je vais me poser la question de comment améliorer les prélèvements sur tel ou tel site. J'imagine que ça serait possible de demander du temps administratif pour faire ça, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait par mes collègues qui sont responsables de site. À ma connaissance.
D'accord. On va parler des missions, des responsabilités, d'une éventuelle charge mentale. Tu nous as parlé déjà de tes tâches à effectuer et la responsabilité dans ton travail, elle est sur l'acheminement correct, l'étiquetage correct et puis aussi le côté humain du prélèvement. Quelle liste tu donnerais des responsabilités que tu as dans ton travail ?
C'est pas complètement évident de répondre à cette question. Parce que c'est des responsabilités qui sont larges et qui sont floues et qui doivent être adaptées au poste sur lesquels je me trouve, c'est-à-dire à la structure, aux gens que j'ai en face, les patients, les équipes, les demandes des médecins, et qui doivent être mises en lien les unes avec les autres. C'est-à-dire ma responsabilité première, par exemple, ça va être de faire ce que j'expliquais tout à l'heure, tous les prélèvements qui ont été prescrits sur une matinée. Mais si au milieu de tout ça, on m'appelle parce qu'il y a un prélèvement urgent du bloc maternité, parce qu'une personne est en train de faire une hémorragie, et qu'il faut qu'en urgence, j'amène ce prélèvement-là au plateau technique, donc qui n'est pas dans l'hôpital, qui est plusieurs rues à côté, ma responsabilité principale, du coup, ça va être de planter le taf des prélèvements normaux, d'aller chercher ce prélèvement-là, de l'étiqueter en urgence et de l'amener avec mes pieds donc au plateau technique.
Justement, cette responsabilité, est-ce qu'à un moment donné, on est sur du terme qualitatif ou on est exclusivement sur du terme quantitatif ?
Eh bien, on est sur les deux, j'ai envie de dire. Ouais. Et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. C'est-à-dire, je n'ai pas, moi, un document qui me dit « cette chose-là va être prioritaire sur cette chose-là ». J'ai une indication globale d'un prélèvement urgent et prioritaire sur un prélèvement non urgent. Mais j'ai aussi une indication globale qui est « dans ta journée, tu finis les prélèvements qui ont été prescrits, quoi qu'il arrive ». Et c'est à moi de jauger entre la pression qui est mise par les services et ou par les médecins, la pression qui est due à de l'urgence, la pression que je me mets moi toute seule parce qu'il faut bien que j'avance dans mon taf, les passages des coursiers au milieu de ça, et les décisions. En fait, c'est moi qui décide techniquement si jamais le prélèvement moi-même ou si je le laisse au coursier, dans quel ordre je fais les choses, tout ça, c'est moi qui vais décider. Du coup, ma grosse responsabilité de la journée, ça va être d'arriver à m'adapter pour que tout le monde soit content, globalement, et que le taf soit fait si possible, vite.
D'accord. Ce volume de responsabilité te convient-il ?
Une partie oui et une partie non. Moi, j'avoue que j'aime bien quand les choses sont claires et du coup, de ne pas avoir un document précis qui me dit dans telle situation, c'est une urgence qui nécessite que tu te déplaces. Dans telle situation, tu peux dire que non, ça va attendre une demi-heure. Ça, pour moi, c'est problématique. voire éventuellement, je considère que c'est dangereux, parce que ça veut dire que je peux décider un jour de ne pas amener un prélèvement qu'en fait, il aurait fallu que j'amène, ou de l'amener et qu'en fait, je laisse la clinique toute seule et que s'il y a un autre urgent, à ce moment-là, je ne suis pas là pour le réceptionner. Bon, en général, il y a d'autres gens, hein, par exemple, mais ça amène pas à des trucs dramatiques, ça amène à des retards de prise en charge. Et, du coup, et ça, par exemple, je ne suis pas très confortable avec. Après, par contre, j'aime bien avoir la responsabilité de m'organiser moi dans ma journée et de décider dans quel ordre, globalement, je fais les trucs. Ça, c'est plutôt quelque chose qui me plaît.
Très bien. On va parler de tes outils de travail.
Alors, tu nous as décrit un peu dans ton travail que tu avais pas mal de matériel sur toi. Donc, par exemple, c'est qui te fournit le matériel de prélèvement, le téléphone, etc. C'est le labo, c'est la clinique.
L'ensemble du matériel est fourni par le laboratoire, à l'exception des téléphones, qui est fourni par la clinique, il me semble, à vérifier. L'ensemble du matériel, du coup, ça va être le matériel présent dans les étages. On a des chariots de prélèvement à chaque étage. Ça, c'est notre partie du laboratoire qui est dans la clinique. Et le matériel que je trimballe avec moi, c'est-à-dire la sacoche avec le garrot, ma blouse, mes stylos, et tout ça aussi, c'est fourni par le laboratoire.
Ok. Ton gros outil de travail, c'est, j'ai l'impression, le téléphone.
Ouais.
C'est ton lien avec la plupart des autres collègues du service.
Et pas que, c'est mon lien avec absolument tout le monde. Quand en fait, moi, je suis un élément extrêmement mobile dans l'hôpital. Je passe mon temps à monter, descendre les étages, changer de service, ramener des prélèvements, courir un peu partout. Du coup, la seule façon qu'on a pour me contacter directement, c'est mon téléphone. C'est un téléphone qui sonne quand mes collègues veulent me parler, quand mes supérieurs veulent me parler, quand le plateau technique veut me parler, quand les services veulent me parler, quand un médecin veut un résultat. Ça sonne tout le temps.
Ça fait quel effet à peu près cette sonnerie sur toi, sur ton corps ?
Maintenant, ça me met en stress et ça me met en colère. On peut dire ça. Globalement, le téléphone, surtout sur les périodes où il sonne très régulièrement alors que je suis en train de réaliser des prélèvements, c'est vraiment un stress supplémentaire. C'est pas une sonnerie qui est agréable et c'est fatigant d'être interrompu tout le temps.
Tu n'as pas le choix de mettre en veille les 2 minutes de prélèvement.
Non, j'ai pas le choix de mettre en veille les 2 minutes de prélèvement. Et surtout, il y a une des 2 cliniques dans lesquelles je travaille où le téléphone n'indique pas qui a appelé. Du coup, ça veut dire que si je ne décroche pas sur le moment, je ne sais pas qui a appelé. Ça veut dire que si c'est un prélèvement urgent, je ne peux pas aller le chercher. Et que si c'est pour m'avertir qu'il y a un prélèvement à faire, soit j'attends que quelqu'un veuille bien me rappeler, ce qui n'arrive pas toujours. Donc peut-être je me mets dedans pour un prélèvement à faire. Soit éventuellement, oui, je passe à côté d'une urgence. Ça fait que, globalement, généralement, je m'excuse. Mais par exemple, je peux faire une prise de sang et répondre au téléphone en même temps. Je le fais. Je veux dire, si le téléphone sonne, je décroche. La seule exception que je m'autorise, c'est quand je prélève un nouveau-né, où je considère qu'avec un nouveau-né dans les mains, je ne décroche pas le téléphone.
Voilà. Un autre outil de travail dont on peut parler, c'est le vocabulaire.
Oui.
Tout le monde a eu à faire des prélèvements dans sa vie. Et ce n'est pas forcément limpide ce qui en ressort comme résultat. Ton outil de travail, c'est donc de brasser avec tout ce vocabulaire. Ça sert à quoi, ce vocabulaire spécifique, à ton avis ?
Alors, c'est un vocabulaire qui est dédié au monde de la biologie, du prélèvement et du milieu médical. C'est un vocabulaire, à part les sigles, vraiment le vocabulaire en lui-même, j'ai l'impression que c'est un vocabulaire qui est nécessaire parce qu'on cherche des choses qui sont hyper pointues, hyper spécifiques, qui ont besoin de noms précis et du coup, on a besoin de ces mots-là. Maintenant, comme par exemple le monde du prélèvement, c'est souvent des prélèvements très agglutinés les uns avec les autres. On va considérer qu'il y a des packs de prélèvements qui existent. Et du coup, on a besoin pour ça, on utilise plutôt des sigles plutôt que de faire une liste de 5 mots hyper longs et relous. Et du coup, par exemple, on va faire des BES, des BVR, et pour moi, ça veut dire quelque chose. Faire un BVR, c'est un mélange de bilan sanguin et urinaire qui va permettre d'analyser une partie du système rénal de la personne et globalement une partie de la composition de son sang qui nous intéresse sur des histoires de coagulation. Et voilà, bon, bref, les sigles vont nous permettre de faire des packs. Du coup, pour communiquer avec les collègues, ça va être extrêmement plus pratique. Pour communiquer avec les médecins, ça va être plus pratique aussi si on connaît les mêmes sigles. Et et pour communiquer avec les patients. Par contre, ça veut dire que souvent, on va devoir faire un peu de la traduction.
Je vais la faire. Donc, une partie de ton travail est de traduire les médecins et ou traduire tes collègues, quoi.
Alors, c'est une partie dont je ne parle pas beaucoup. Et ça, pour le coup, ça ne fait vraiment pas partie de ma fiche de poste. Évidemment, une grosse partie de mon travail, c'est de faire du relationnel et de l'accompagnement sur l'ensemble de la prise de sang, bien sûr, déjà. Et en plus de ça, du coup, d'expliquer le prélèvement que je suis en train de faire. Hyper régulièrement, j'arrive dans une chambre à l'hôpital, je dis « Bonjour, je viens pour la prise de sang du matin », et la personne me dit « Quelle prise de sang ?» Et là, à moi, du coup, la charge d'expliquer qu'on fait cette prise de sang-là qui sert à ça, à savoir que moi, j'ai pas accès, je ne suis pas censée avoir accès au dossier médical des gens, je ne suis pas censée savoir pourquoi ils sont hospitalisés, ni leur maladie, ni rien de leur vie privée et médicale. Du coup, je me retrouve à donner des hypothèses ou des interprétations. Donc, j'explique pourquoi on fait ce bilan sanguin, à quoi, globalement, ce bilan sanguin-là, il sert, tout en disant à la personne, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, donc je ne sais pas exactement ce que votre médecin cherche. Il y a des services où c'est plus ou moins facile. Dans le service de maternité, par exemple, c'est très évident pourquoi on fait tel et tel bilan. Dans les services de médecine, beaucoup moins.
Est-ce que tu nous raconterais une loose et un moment chouette dans ton travail ?
Ouais. Un moment chouette, par exemple, ça va être... Bon, moi, par exemple, j'ai des enjeux personnels assez forts à faire que les prises de sang se passent bien, et notamment pour les gens qui sont phobiques des piqûres. Je mets énormément d'importance à ce que ça ne soit pas un traumatisme de plus et à ce que ça se passe le plus tranquillement possible. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de moments bien qui correspondent à ces situations-là où les gens arrivent avec beaucoup de stress... Et où finalement, ça se passe pas si mal. Et où je pense notamment avec les enfants. Et particulièrement, là, je pense à une situation avec une jeune ado qui venait pour une prise de sang, qui a été, je pense, assez choquée, traumatisée, plus jeune par d'autres prises de sang et hospitalisations. Et c'était une prise de sang super galère. Parce que je pense qu'on a mis une demi-heure ou trois quarts d'heure. C'était vraiment horrible pour elle. Et elle criait, elle pleurait, son père essayait de la prendre dans ses bras et elle se débattait, et c'était assez affreux comme moment. Et à la fois, moi j'ai refusé de lui faire la prise de sang si elle n'était pas consentante, et du coup ça a été une demi-heure de discussion, d'accompagnement, de négociation, de recherche de stratégie. Et en vrai, c'était hyper chouette de pouvoir impliquer la petite, cette ado-là, dans la recherche de stratégie. Et après, en vrai aussi, c'était hyper chouette parce que ça a fini par marcher, qu'elle a switché, elle m'a donné son bras, c'est passé nickel, et franchement c'était hyper joli.
Une loose.
Et ben les looses, c'est qu'on a des journées un peu chargées et du coup, des fois, on n'a pas la totalité de son cerveau à disposition. Et que ça arrive de faire des prises de sang et d'oublier, par exemple, de prélever un tube. Et on prélève du sang sur différents tubes. Du coup, on peut pas utiliser chaque tube pour toutes les analyses de la Terre. Il y a des tubes dédiés. Et moi, par exemple, mes looses, et notamment celle à laquelle je pense là, c'est une dame qui était vraiment pas fan des piqûres, qui était enceinte jusqu'aux yeux, qui venait pour un bilan sanguin pré-déclenchement, finalement. Pas le jour même, je dirais. C'était quand même quelques jours plus tard, c'était pas imminent, mais c'était quand même un peu important. Et du coup, elle avait déjà tout donné pour venir au labo, pour se faire prélever. Et du coup, je la pique et je la laisse partir et je me rends compte une heure plus tard, un peu moins d'une heure plus tard, que j'ai oublié de lui prélever un tube. Du coup, c'était un bilan urgent qu'il fallait envoyer en urgence à son médecin. Donc, je rappelle la dame en espérant qu'elle ne soit pas partie. Non seulement elle était partie, mais en plus, elle s'était tordue la cheville en rentrant chez elle. Donc, elle ne pouvait certainement pas revenir au laboratoire pour se faire faire la suite du bilan. Ça, pour moi, c'était quand même un beau moment de douce. J'avais un peu honte.
Pourquoi tu fais staff plutôt qu'un autre ?
On va pas se mentir, c'était vraiment une question de thunes au début, parce que c'était avec les histoires de primes et de fériés, c'était quand même plus... C'était payé comme un taf infirmier global, mais moi j'avais l'impression avec moins de contraintes, et c'est vrai qu'il y a une partie des contraintes d'être infirmière en service qu'il n'y a pas dans ce boulot-là, je pense. Mon critère principal, c'était de pouvoir poser mon cerveau, vraiment lâcher le travail en partant du travail et de ne pas y repenser toute la nuit. Et ça marche très très bien. J'avoue que les prises de sang, ça marche extrêmement bien pour ça. Et un autre de mes critères, c'est que j'aime beaucoup faire des prises de sang également. Donc j'avais l'impression que ça faisait un petit cumul de gestes techniques que j'aime bien, de côté relationnel un peu chouette, sans avoir les côtés négatifs d'être infirmière en service. Et voilà, et honnêtement, je pensais aussi que les conditions de travail étaient quand même plus tranquilles.
Et est-ce que c'est compatible avec ton entourage,
et ben, travail du coup, c'est moyen compatible avec mon entourage parce qu'on fait énormément d'heures par semaine, que du coup, je suis fatiguée et je vois bien que j'ai pas beaucoup de cerveau et d'énergie disponible pour le reste de ma vie. Donc, en termes de vie sociale, j'ai essayé, mais c'est pas une franche réussite.
D'accord. Donc, tu arrives à couper mentalement sur ce poste-là d'infirmière, le soir, comme tu dis. Est-ce que tu as l'impression que cette fonction-là spécifique de préleveuse a un impact sur ta santé physique ?
Ouais, c'est certain. Sur ma santé physique, en fait, c'est un boulot où dans la journée, je peux taper 10 km de piétinage dans des hôpitaux. Du coup, ça fait clairement mal aux jambes. Je travaille en basket, par exemple. Mais ça fait clairement mal aux jambes. Je pense qu'il m'a fallu 6 mois pour m'habituer au rythme des montées-descentes d'escaliers, de courir dans les couloirs. Ça fait également mal aux épaules parce que les services sont... Les hôpitaux ont ce truc de mettre des portes coupe-feu entre chaque service et que du coup, il faut pousser les portes coupe-feu en ayant plein de matériel dans les bras en permanence. Et c'est pas évident de faire que des prélèvements en service avec le stress et le speed du rythme des journées, parce que ça veut dire qu'on prend pas le temps de monter les lits à hauteur, on prend pas le temps que les gens se positionnent bien, ni nous de se positionner bien. Ça veut dire que la plupart des prélèvements, je les fais plier en deux, accroupis par terre, un peu n'importe comment. Et c'est pas, en termes d'ergonomie, c'est pas le top du top pour le côté santé physique. Pour le côté santé mentale, entre les histoires de stress, mais je pense vraiment ce truc du téléphone, ça impacte quand même pas mal. Je vois bien qu'en dehors du travail, je suis quand même beaucoup plus impatiente, beaucoup plus intransigeante depuis que je fais ce boulot-là et que je déteste les téléphones vraiment très très fort maintenant.
Est-ce que si tu connais des préleveuses qui font ça depuis très très longtemps, est-ce qu'on observe des maladies professionnelles spécifiques à cette fonction de préleveuse ?
Ouais, j'ai pas mal de collègues qui ont des problèmes de dos et des problèmes de genoux.
Ouais, ce que tu disais, oui. Donc, l'ergonomie. On va élargir un petit peu la réflexion autour de ton travail. Quels sont pour toi les enjeux du travail plutôt d'infirmière, j'imagine. Peut-être tu veux parler spécifiquement de préleveuse, mais quels sont les enjeux de ce travail politique, économique, sanitaire ?
Pour moi, un des gros enjeux de travailler dans la santé, c'est la question de l'accès aux soins. Et au-delà de la question de l'accès aux soins, c'est la question de la qualité des soins qui sont proposés et de l'adaptation de ces soins-là aux besoins et aux envies de la personne. Et du coup, là, dans mon travail, je trouve que c'est un boulot qui est, de façon générale, travailler à l'hôpital, ça pose énormément de questions sur la qualité des soins qui sont fournis, la prise en compte des patients, de leurs émotions, de leurs envies, de leurs besoins, de leurs remarques, c'est quand même déjà pas évident. Dans le cadre du prélèvement, je trouve que c'est pas simple parce qu'on est dans une situation de morcellement du travail. On prend un geste technique qui devrait être complètement inclus dans la prise en charge globale du patient. Normalement, une équipe paramédicale voit la situation générale, sait pourquoi on va faire tel prélèvement à tel moment, à quoi il sert, en a informé le patient et arrive à intégrer ça dans un soin général, et pas que le résultat, l'ensemble de cette pratique-là. Mon intervention à moi au milieu de ça et le fait d'être sous-traitante de prélèvement, ça fait que c'est complètement découpé du reste. Que d'une part, moi, mon intervention, elle n'est pas hyper comprise par le patient, que d'autre part, je ne suis pas hyper bien capable, ce que je disais tout à l'heure, d'expliquer pourquoi on va faire tel et tel prélèvement. Finalement, ça fait quand même pas mal de décalage. Ça fait aussi que comme c'est pas un soin qui est réalisé par les infirmières du service, les patients éventuellement ils doivent rester en chambre jusqu'à ce que moi je passe et ils savent pas quand parce que j'ai toute la clinique à charge et que du coup c'est quand même en termes de respect de la personne hospitalisée, c'est quand même pas très aidant.
Juste pour moi, économiquement, évidemment que c'est vraiment la marche classique du capitalisme de fractionner comme ça, de passer à des modes ultra rentables, parce que la sous-traitance du prélèvement comme ça, c'est ça, c'est hacher comme ça toutes les fonctions du soin et essayer d'optimiser une rentabilité.
Mm-hmm.
On est d'accord, le labo, c'est ça.
Oui.
On sait.
Ouais. Oui, d'accord. Oui.
Est-ce que tu as des problèmes de... Est-ce que ce travail peut te poser des problèmes de conscience ?
Oui, et très directement en lien avec ce que je viens d'expliquer déjà sur le côté prise en soin global et proposition des soins aux patients. Et après, sur le côté relationnel, je trouve du coup c'est une place qui n'est pas évidente. Et il y a vraiment plein de moments où moi j'ai l'impression que comme je suis obligée d'enchaîner les prélèvements, je ne fais pas attention, je ne peux pas me permettre de faire, enfin même j'ai pas les billes pour savoir dans quel état est la personne, à quel moment ça serait plus pertinent de faire son prélèvement par exemple, de quelle façon ça serait pertinent de faire ce prélèvement là. En fait, je ne connais pas les gens, je ne connais pas leurs peurs, je ne connais pas leurs besoins, je ne connais pas leurs spécificités. Du coup, ça fait que moi j'arrive quand je peux arriver, je fais le prélèvement avec les 2-3 infos que j'ai de comment la personne elle se comporte dans les 10 premières secondes où on se parle, et je repars derrière sans pouvoir donner beaucoup plus d'explications. Humainement, ça va poser un petit peu question, quand même, je trouve. Et particulièrement avec certaines personnes qui ne vont pas être, par exemple, orientées et cohérentes. Ça veut dire que j'ai très peu de temps pour organiser un soin. Ça veut dire, concrètement, ça veut dire qu'il y a une partie des prélèvements que je fais sous la contrainte, ou que je fais vite sans prendre le temps de préparer bien la personne. Du coup, je fais au mieux, mais ça n'empêche pas que ces moments-là, ils existent.
Ces questions peuvent être abordées avec tes employeurs, ces questions de qualité humaine et de...
Bof. Pas trop. J'ai l'impression que des fois, on peut essayer d'en parler. Par exemple, il y a eu des situations où, dans une clinique périphérique, on avait des prélèvements à faire tous les jours ou tous les deux jours à un patient qui était en soins palliatifs. J'ai des collègues qui se sont plaintes de ça, qui ont demandé qu'il y ait un dialogue qui soit instauré entre le médecin de la clinique et les biologistes, par exemple, de notre laboratoire, pour savoir si c'était réellement nécessaire et pour qu'il y ait une discussion là-dessus. Mais c'est une exception.
Est-ce que tu veux nous raconter une lutte récemment dans l'hôpital ? Est-ce qu'il y a eu, enfin, dans ton service, une lutte, une baston collective, une histoire sur laquelle vous êtes engagés collectivement ?
Récemment, dans mon service, il y a eu une sorte de non-lutte. Je pense il y a une paire de mois où on a commencé à être toutes très fatiguées après l'été, à être pas loin du craquage, à aller pas super bien, et on avait pas mal l'impression que c'était pas du tout pris en compte par notre hiérarchie. Ça a suscité énormément de discussions. On a envisagé la possibilité de faire grève. On a penser à certains moyens de pression qu'on pourrait mettre en place pour finalement ne rien faire.
Tu sais ce qui vous a empêché d'agir collectivement ?
Je pense que c'est hyper, malgré le côté fonctionnement solidaire de l'équipe et tout, c'est en fait très très difficile de dépasser la condition individuelle, j'ai l'impression, de chaque personne. Et qu'on n'a pas toutes les mêmes enjeux économiques, en termes de famille, de nécessité d'un travail, de possibilité de rebondissement. Et moi, je pense qu'on n'a pas été capable de dépasser ça, finalement.
Et puis, vous, comme tu disais, vous êtes en sous-effectif. Donc, vous êtes une dizaine. C'était une dizaine, ce groupe
À peu près à ce moment-là. Aussi, ce qui a fabriqué un côté compliqué à ça, c'est que comme on n'était pas toutes d'accord et qu'on ne se voyait pas de toute façon arrêter toute l'activité pendant un temps déterminé, c'était aussi hyper compliqué de lutter contre la culpa, de ne pas culpabiliser des collègues qu'on allait laisser sur le carreau, par exemple, en se mettant en arrêt ou en faisant une grève qu'on ne ferait pas toutes. Ça a été un côté délicat. Après, là, la situation a fait que c'était l'époque des entretiens individuels. Du coup, chaque personne, à peu près individuellement, s'est sentie de porter un peu des trucs. J'ai l'impression que ça, plus les démissions, la vague de démissions qui a commencé à ce moment-là, ça a fait qu'il y a eu une prise en compte par la hiérarchie qui a récemment augmenté les salaires.
Donc ça n'a pas été une lutte, mais ça a été victorieux.
On peut dire ça, à la fois, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment le voir comme ça, parce que ça a été... ça reste une augmentation de salaire qui est inférieure à la plupart des autres laboratoires de la ville, par exemple. Et surtout, en fait, c'est même pas tant la question du salaire, c'est que ça n'a pris en compte que l'histoire du salaire et pas du tout des conditions de travail. Et que ça arrivait tard, ça arrivait trop tard, je pense.
Et pour conclure, est-ce que tu penses pouvoir faire ce taf encore longtemps ?
Pas du tout.
Merci.
Merci.
Un plaisir.
You know how people say love is the answer. Well, what the fuck is the question? Question, question. Let me know. Check, check. One, two. Let's go. Let's go. L-O-V-E. Hell no, it isn't easy. Temp rising, breathing faster. I can't get no easy answers. Study up and read the chapters. I can't get no easy answers. Ain't the answer, set a form of loving through the issues. But was it real or was it superficial? If it's really with their emotional abuse, or if they bruise or hit you, would you be confused or choose a looser chip tooth? Why is it needs a ring in City Hall, papers to prove official? Is it something you falling over, thing that soothes and lifts you? Define gravity, but rather than the ladder, we get Pat Benatar's battlefield. Where's the seminar to help a heart that shattered heal? Or rally up a chant for nation states to hate, to reconciliate with two people who each other can't? Is it chemistry? Cause if the recipe is off, or did you saltier than MSG? We got sparks like a finger in the socket by mistake. Is it the opposite of fear or opposite of hate? Is it guarded with your life or locked up in a safe? If it's free, why you feeling trapped and plotting your escape? Searching for greener pastures. I can't get no easy answers. Caught up in the heat of passion. You can't get no easy answers. Turn into complete disaster. I can't get no easy answers. Somebody deceive the masses, cause there ain't no easy answers. Supreme like Coltrane, a no-brainer. Do you try to own it or keep it open with no hang-ups? Is it a baby in the mother's arms? Or maybe it's the way you got me open with your southern charm. No ordinary. Another song by Sade, sweet as agave. This romance is slow dance, but what about agape? Is it a verb or a noun? While some disturbed, I prefer her and wish that we were burned to the ground. Is it only in between the sheets? To me, it's only true if I'm told when I got food between my teeth. That's real. Do you believe in soulmates or mating souls? Why so many relationships just fill a gaping hole? Instead of reflect, elevate, and grow. Can you truly love another if you relegate your goals? I heard it's breaking all the chains. Take away the pain. Live it flying higher than a thousand paper cranes. Temp rising, breathing faster. You can't get no easy answers. Study up and read the chapters. I can't get no easy answers. Somebody deceive the masses. Cause there ain't no easy answers. Y'all been both freeze and captures. I can't get no easy answers.